Chapitre 3 L'ombre de Lupin. Vous les connaîtrez par leurs fruits, l'Évangile. Éclairons tout d'abord, me dis-je, l'intérieur de cette passion en secouant simplement sur elle le principe lumineux de l'attraction des contraires et parions, au besoin, la conscience d'un moraliste officiel contre un penny que nous ne devinerions juste. Les goûts et les sens de mon ami, rien qu'à l'analyse de sa physionomie et d'après mille indices bien médités, ne pouvant être que des plus simples, des plus primitifs, des plus naturels, ne devaient, présumais-je, avoir été stérilisés et corrodés à ce point que par l'envoûtement de leurs inverses. Une telle entité ne pouvait avoir été abolie à ce point que par le néant. Le vide seul devait lui avoir donné ce genre de vertige. Donc, si peu rigoureuse que pouvait sembler ma conclusion, il fallait qu'au mépris de tout l'encens consumé sur ses autels, cette Miss Evelyn Abal fût, simplement, une personne dont l'aspect eût été capable de faire fuir en éclatant de rire ou dans l'épouvante, cela même, s'ils eussent eu sous leurs paupières de quoi la regarder fixement une seule fois, qui me brûlait ainsi, en sa faveur et sous le nez, ce fade encens. Il fallait que tous fussent dupes d'une illusion, poussée sans doute à quelques degrés d'apparence insolite, mais d'une simple illusion, qu'en un mot, l'ensemble des attraits de cette curieuse enfant fut, de beaucoup, surajouté à la pénurie intrinsèque de son individu. C'était donc, simplement, la fraude ravissante sous laquelle cette nullité d'attrait était dissimulée, qui devait pervertir ainsi le premier et superficiel coup d'œil des passants. Quant à l'illusion plus durable d'Anderson, non seulement elle n'était pas extraordinaire, mais elle était inévitable. Ces sortes d'êtres féminins, en effet, c'est-à-dire celles qui ne sont abaissantes et fatales que pour des hommes d'une rare et droite nature, savent d'instinct graduer à cet amant les découvertes de toute leur vacuité de la manière la plus ingénieuse. Les simples passants n'ayant même pas le temps d'en apercevoir le nombre et la gravité, elles accoutument sa vue, par d'insensibles dégradations de teinte, à une lumière douceâtre qui en déprave la rétine morale et physique. Elles ont cette secrète propriété de pouvoir affirmer chacune de leurs laideurs avec tant de tact que celles-ci en deviennent des avantages. Et elles finissent par faire ainsi passer, insensiblement, leur réalité, souvent affreuse, dans la vision initiale, souvent charmante, qu'elles en ont donnée. L'habitude vient avec tous ses voiles. Elle jette sa brume, l'illusion empire, et l'envoûtement devient irrémédiable. Cette œuvre semble dénoncer une grande finesse d'esprit, une intelligence des plus habiles, mais c'est là une illusion aussi grande que l'autre. Ces sortes d'êtres ne savent que cela, ne peuvent que cela, ne comprennent que cela. Ils sont étrangers à tout le reste, qui ne les intéresse pas. C'est de la pure animalité. Tenez, l'abeille, le castor, la fourmi font des choses merveilleuses, mais ils ne font que cela et n'ont jamais fait autre chose. L'animal est exact. La naissance lui confère avec la vie cette fatalité. Le géomètre ne saurait introduire une seule case de plus dans une ruche, et la forme de cette ruche est, précisément, celle qui, dans le moindre espace, peut contenir le plus de cases, etc. L'animal ne se trompe pas, ne tâtonne pas. L'homme, au contraire, et c'est là ce qui constitue sa mystérieuse noblesse, sa sélection divine, est sujet à développement et à l'erreur. Il s'intéresse à toute chose et s'oublie en elle. Il regarde plus haut. Il sent que lui seul, dans l'univers, n'est pas fini. Il a l'air d'un dieu qui a oublié. Par un mouvement naturel et sublime, il se demande où il est. Il s'efforce de se rappeler où il commence. Il se tâte l'intelligence avec ses doutes comme après on ne sait quelle chute immémoriale. tel est l'homme réel. Or, le propre des êtres qui tiennent encore du monde instinctif dans l'humanité, c'est d'être parfait sur un seul point, mais totalement borné à celui-là. Telles ces femmes, sortes de stympalides modernes, pour qui celui qu'elles passionnent est simplement une proie vouée à tous les asservissements. Elles obéissent, fatalement, à l'aveugle, à l'obscur assouvissement de leur essence maligne. Cet être de rechute, pour l'homme, ces éveilleuses de mauvais désirs, ces initiatrices de joie réprouvées, peuvent glisser, inaperçues, et même en laissant un souvenir agréable entre les bras de 1000 passagers insoucieux dont le caprice les effleure. Elles ne sont effroyables que pour qui s'y attarde exclusivement, jusqu'à contracter en son cœur le vil besoin de leur étreinte. Malheur à qui s'habitue au bercement de ces endormeuses de remords. Leur nocuité autorise les plus captieux, les plus paradoxaux, les plus anti-intellectuels moyens séductifs pour intoxiquer, peu à peu, de leur charme mensonger, le point faible d'un cœur intègre et pur, jusqu'à leur survenance maudite. Certes, en tout homme, dorme, virtuel, tous les salissants désirs que couvrent les fumées du sang et de la chair. Certes, puisque mon ami Edward Anderson succomba, c'est que le germe en était dans son cœur, comme en des limbes, et je ne l'excuse ni ne le juge. Mais je déclare, avant tout, passible d'une capitale pénalité, l'être pestilent, dont la fonction fut d'en faire éclore, savamment, l'hydre aux mille têtes. Non, cet être ne fut point, pour lui, cette Ève ingénue que l'amour, fatal sans doute, mais enfin que l'amour égara vers cette tentation qui, pensait-elle, devait grandir jusqu'à l'état divin, son compagnon de paradis. Ce fut l'intruse consciente, désirant d'une façon secrète et natale, pour ainsi dire malgré elle enfin, la simple régression vers les plus sordides sphères de l'instant et l'obscurcissement d'âme définitif de celui qu'elle ne tentait qu'afin de pouvoir en contempler, un jour, d'un air d'infatuée satisfaction, la déchéance, les tristesses et la mort. Oui, telles sont ces femmes, jouées sans conséquence pour le passant, mais redoutables pour ces seuls hommes, parce qu'une fois aveuglées, souillées, ensorcelées par la lente hystérie qui se dégage d'elles, ces évaporées, accomplissant leur fonction ténébreuse en laquelle elles ne sauraient éviter elles-mêmes de se réaliser, les conduisent forcément, en épaississant, d'heure en heure, la folie de ses amants, soit jusqu'à l'anémie cérébrale et le honteux affaissement dans la ruine, soit jusqu'au suicide hébété d'Anderson. Seules, elles conçoivent l'ensemble de leurs projets. Elles offrent, d'abord, comme une pomme insignifiante, un semblant de plaisir inconnu, ignominieux déjà, cependant, et que l'homme, au fond, n'accepte de commettre qu'avec un sourire faible et trouble et, d'avance, un remords. Comment se défier absolument, pour si peu, de ces illicébrantes mais détestables amies qui sont, chacune pour chacun, celles entre toutes qu'il ne faut pas rencontrer. Leurs protestations et leurs instances, si subtiles, si artificieuses qu'on n'en distingue plus le métier, l'obligent presque, ah, je dis presque, tout est dans ce mot pour moi, de s'asseoir avec elles à cette table où, bientôt, le démon de leur mauvaise essence les contraint, s'il faut tout dire, elles aussi, à ne verser à cet homme que du poison. Dès lors, c'en est fait, l'œuvre est commencée, la maladie suivra son cours. Un Dieu seul peut le sauver, par un miracle. En conclusion, de tels faits, dûment analysés, édictons le draconien décret suivant. Ces femmes neutres, dont toute la pensée commence et finit à la ceinture, et dont le propre est, par conséquent, de ramener au point précis où cette ceinture se boucle, toutes les pensées de l'homme, alors que cette même ceinture n'en sert, luxurieusement et toujours, qu'un méchant ou intéressé calcul, ces femmes, dis-je, sont moins distantes, en réalité de l'espèce animale que de la nôtre. Par ainsi, étant tenu compte d'un scrupule, l'homme digne du nom d'homme a droit de haute et basse justice sur ce genre d'être féminin, au même titre qu'il se l'arroge sur les autres individus du règne animal. Donc, étant donné que, grâce à la mise en œuvre de certains frauduleux moyens, si l'une de ces femmes, profitant de l'un de ces hasardeux moments de faiblesse maladive, où tout vivant, même viril, peut se trouver sans défense, a su faire tomber, à la longue, ensuite, jusqu'à l'aveuglement passionnel, un homme, beau, jeune, courageux, consciencieux de ses devoirs, ayant gagné sa fortune, doué d'une intelligence élevée et d'une initiale dignité de sens jusqu'alors irréprochable, oui, je déclare qu'il me semble équitable de dénier à cette femme le libre droit d'abuser de la misère humaine jusqu'à conduire cet homme, consciemment ou non, ou la sauteuse d'enfer dont je parle, a conduit mon ami. Or, comme il est dans la nature de ces sortes de personnes, aussi nulles que mortelles, d'en abuser quand même, nécessairement, puisqu'en principe elles ne peuvent être, avons-nous dit, qu'abaissantes, équipisées, contagieuses, je conclus que le droit, libre et naturel aussi, de cet homme sur elle, si par miracle il lui est donné de s'apercevoir à temps de ceux dont il est victime, est la mort sommaire, adressée de la manière la plus occulte et la plus sûre, et cela sans scrupule ni autre forme de procès, par la raison qu'on ne discute pas plus avec le vampire qu'avec la vipère. Approfondissons encore l'examen de ces faits. C'est important. Par l'accidentelle incidence, disons-nous, d'un trouble mental dû aux fumées d'un tel souper, unique peut-être dans la vie de cet homme, voici que cette guetteuse innée reconnaît sa proie possible, on devine la sensualité virtuelle, inéveillée encore, trame sa toile de hasard prévu, bondit sur elle, l'enlace, lui ment et l'énivre selon son métier, et, se vengeant en elle-même, aussi de celle qui, là-bas, irréprochable, laborieuse et chaste, avec de beaux enfants, attend, dans l'anxiété, se marie follement attardée pour la première fois, voici, dis-je, qu'elle corrode, en une nuit, d'une goutte de son ardent venin, la santé physique et morale de cet homme. Le lendemain, si quelque juge pouvait l'interroger, elle répondrait, impunément, qu'au moins une fois réveillée, cet homme est bien libre de se défendre, en ne revenant plus chez elle, alors qu'elle sait bien, puisqu'au fond de son redoutable instinct, elle ne sait même que cela, que cet homme, entre tous les autres, ne peut déjà plus se réveiller tout à fait d'elle sans un effort d'une énergie dont il ne se doute pas, et que chaque rechute, provoquée sans cesse par elle, obscurément, rendra de plus en plus difficile. Et le juge, en effet, ne saurait que répondre, ni statuer. Et cette femme, poursuivant son œuvre odieuse, aura le droit de pousser, nécessairement, de jour en jour, son aveugle vers ce précipice ? Soit. Seulement, que de milliers de femmes n'a-t-on pas exécutées pour de moins tortueux attentats ? C'est pourquoi, l'homme étant solidaire de l'homme, si mon ami ne fut pas le justicier de cette irrésistible empoisonneuse, j'ai dû savoir ce que j'avais à faire. Des esprits, soi-disant modernes, c'est-à-dire tarés par le plus sceptique des égoïsmes, s'écrieraient en m'écoutant « Ah, ça, que vous prend-il ? De tels accès de morale ne sont-ils pas, pour le moins, surannés ? Après tout, ces femmes sont belles, sont jolies, elles usent, au-dessus de tous, par ces moyens de faire fortune, ce qui est, de nos jours, le positif de la vie. Alors, surtout, que nos organisations sociales ne leur en laissent guère beaucoup d'autres. Et après, pourquoi pas ? C'est la grande lutte pour l'existence, le « tue-moi ou je te tue » des temps actuels. À chacun de se garer. Votre ami ne fut, au bout du compte, qu'un naïf, et de plus qu'un homme indiscutablement coupable, à tous égards, d'une faiblesse, d'une démence et d'une sensualité honteuse, et sans doute un protecteur ennuyeux pour le surplus. Ma foi, requistat. Bien, il va sans dire que ces affirmations qui toujours ne semblent rationnelles que pour cause d'expressions inexactes, non seulement ne diffèrent pas beaucoup, à mon sens, comme valeur et poids, dans la question qui nous préoccupe, de par exemple celle-ci, ne pleut-il pas, ou quelle heure est-il, mais révèlent, chez ces beaux diseurs, et à leur insu, tel cas d'envoûtement de même nature que celui d'Anderson. « Ces femmes sont belles, » ricane ses passants. « Allons donc, hein, la beauté, cela regarde l'art et l'âme humaine. Celles d'entre les femmes galantes de ce siècle, qui sont revêtues, en effet, d'un certain voile de beauté réelle, ne produisent point, n'ont jamais produit de ces résultats sur des hommes tels que celui dont je parle, et n'ont que faire de se prêter à des façons de le tenter qui, tout d'abord, leur seraient d'une parure malséante. » Elles ne se donnent pas tant de peine et sont infiniment moins dangereuses, leur mensonge n'étant jamais total. La plupart, même, sont douées d'une simplicité qui les rend accessibles à quelques sensations élevées, à des dévouements même. Mais celles-là, seules, qui peuvent avilir à ce point et jusqu'à ce dénouement un homme tel qu'Anderson, ne peuvent pas être belles dans un sens acceptable du mot. S'il s'en trouve qui semblent belles au premier regard, j'affirme que leur visage ou leur corps doit, immanquablement, offrir quelques traits infâmes, abjects, qui démentent le reste et où se traduit leur être, la vie et les excès renforcent, bientôt, ces difformités. Et ce qu'il faut dire maintenant, c'est qu'étant donné le genre de passion qu'elles allument, alors, ce genre de passion doit amener ses moroses conséquences. Ce n'est nullement de leur illusoire beauté que provient, sur leur amant, leur pernicieux pouvoir. Mais bien de ces seuls traits odieux qui font seulement tolérer à cet amant le peu de beauté convenue qu'il déshonore. Le passant peut désirer ses femmes pour ce peu de beauté, leur amant, jamais. Ces femmes sont jolies, promulguent encore nos penseurs. Même en accordant le sens tout relatif de ce mot, ce que l'on n'ajoute pas, c'est qu'on ignore à quel prix elles le sont dès qu'elles ont fait trois pas dans la vie hors de la prime jeunesse. Et je prétends que le prix fait quelque chose à l'affaire cette fois, car le « joli » de leur personne ne tarde pas à devenir d'une qualité souvent le plus artificielle et très artificielle entre-temps. Certes, il est difficile de le reconnaître d'un coup d'œil, mais cela est. « Qu'importe, s'écrient nos philosophes, si l'ensemble est d'une agréable impression, sont-elles autre chose pour nous que de jolis moments qui passent ?» Si la saveur de leur personne, pimentée de ses ingrédients et ajoutée nouveau, ne nous déplaît pas, qu'importe comment elle prépare le mets de haut goût qu'elle débite. Je pense vous prouver tout à l'heure que cela importe un peu plus que ces insoucieux amateurs ne le supposent. Puis, si nous regardons à la prunelle ces douteuses adolescentes, si jolies, nous distinguerons en ces prunelles l'éclair du chat obscène qui veille en elles. Et cette apperception démentira, sur le champ, ce que la crudité d'une jeunesse factice peut leur prêter de charme. Si nous excusons du sacrilège, nous plaçons à côté d'elle, par exemple, une de ces toutes simples jeunes filles dont les joues deviennent couleur des matinales roses au premier mot sacré du jeune amour, nous trouverons, sans effort, que le mot « joli » vraiment est quelque peu flatteur s'il s'agit de qualifier l'ensemble banal de cette poudre, de ce fard, de telle ou telle fausse dent, de telle ou telle teinture, de telle ou telle fausse natte, rousse, blonde ou brune, et de ce faux sourire, et de ce faux regard, et de ce faux amour. Donc, il est inexact d'avancer de ces femmes qu'elles sont belles, ou laides, ou jolies, ou jeunes, ou blondes, ou vieilles, ou brunes, ou grasses, ou maigres, attendu qu'en supposant même qu'il soit possible de le savoir et de l'affirmer avant que telle rapide modification nouvelle ne s'accuse en leur corporéité. Le secret de leur malfaisant charme n'est pas là, bien au contraire. Chose à déconcerter la raison, l'axiome qui ressort de ces féminines striges qui marchent de pair avec l'homme, c'est que leur action fatale et morbide sur leur victime est, en raison directe de la quantité d'artificiel, au moral et au physique, dont elles font valoir, dont elles repoussent plutôt, le peu de séduction naturelle qu'elles paraissent posséder. C'est, en un mot, quoique jolie ou belle, ou laide, etc., que leur amant, celui qui doit en succomber, s'en appassionne et s'en aveugle, et nullement à cause de ses possibilités personnelles. C'est là l'unique point que je tenais à bien établir, attendu que c'est le seul qui soit important. Je passe, ici-bas, pour assez inventif, mais, en vérité, je puis dès à présent vous l'avouer, mon imagination, même survenue par l'animadversion que je nourrissais, je le confesse, contre Miss Evelyn Abal, ne pouvait pas, ne pouvait pas me suggérer jusqu'à quel degré fantasmatique et presque inconcevable cet axiome devait être confirmé par ce que nous allons voir, entendre et toucher tout à l'heure. Maintenant, une comparaison pour conclure, avant de passer à la démonstration. Tous les êtres ont leur correspondance dans un règne inférieur de la nature. Cette correspondance, qui est en quelque sorte la figure de leur réalité, les éclaire aux yeux du métaphysicien. Pour la reconnaître, il suffit de considérer les résultats produits autour de ces êtres par leur présence. Eh bien, la correspondance de ces mornes circées dans le monde végétal, puisque n'étant elles-mêmes, malgré leur forme humaine, que du monde animal, il faut regarder au-dessous pour préciser leur correspondance, celle-ci n'est autre que l'arbre Upa, dont elles sont, en analogie, comme les myriades de feuilles vénéneuses. Il apparaît, très doré par le soleil. Son ombre, vous le savez, engourdie, enivre d'hallucinations fiévreuses, et si l'on s'attarde sous son influence, elle devient mortelle. Donc, la beauté de l'arbre doit être empruntée et surrajoutée à lui-même. En effet, sarclé, lupa de ses millions de chenilles pestifères et brillantes, et ce n'est plus qu'un arbre mort, aux fleurs d'un rose sale et dont le soleil n'arrache plus un reflet. Sa vertu meurtrière même disparaît si on le transplante hors du terrain propice à son action, et il ne tarde pas à dépérir, dédaigné de toute attention humaine. Les chenilles lui sont nécessaires, il se les approprie, et tous deux s'attirent, lui et l'innombrable chenille, à cause de l'action funeste où doit se réaliser leur ensemble qui les appelle en sa synthétique unité. Tel est l'Upa, le manchenillé, si vous le voulez. Certains amours tiennent de son ombre. Eh bien, en échenillant de leurs attraits, aussi délétères qu'artificiels, la plupart de ces femmes dont l'ombre est mortelle, il en reste ce qui reste de l'Upa dans cette même conjoncture. Remplacer le soleil par l'imagination de qui les regarde, l'illusion précisément à cause de l'effort secret qu'elle nécessite, apparaît d'autant plus chatoyante et attirante. Regardez-les en examinant à froid ce qui produit cette illusion. Elle se dissipera pour faire place à cet invincible dégoût dont aucune excitation ne tirerait un désir. Miss Evelyn Abal était donc devenue pour moi le sujet d'une expérience curieuse. Je me résolus à la retrouver, non pour faire la preuve de ma théorie, elle est faite de toute éternité, mais parce qu'il me paraissait intéressant de la constater dans les conditions aussi belles, aussi complètes qu'elles devaient être. « Miss Evelyn Abal, me disais-je, qu'est-ce que cela pouvait bien être ?» Je manquis de ses traces. La délicieuse enfant était à Philadelphie, où la ruine et la mort d'Anderson lui avaient fait une réclame des plus resplendissantes. Elle était fort courue. Je partis et fis sa connaissance en peu d'heures. Elle était bien souffrante. Une affection la minait, au physique, bien entendu. De sorte qu'elle ne survécut même que peu de temps à son cher Édouard. Oui, la mort nous la déroba, voici déjà plusieurs années. Toutefois, j'eus le loisir, avant son décès, de vérifier en elle mes pressentiments et théories. Au surplus, tenez, sa mort importe peu, je vais la faire venir, comme si de rien n'était. la friolante ballerine va vous danser un pas en s'accompagnant de son chant, de son tambour de basque et de ses castagnettes. En prononçant ces derniers mots, Edison s'était levé et avait tiré une cordelette qui tombait du plafond le long d'une tenture.